J'aimerais commencer avant de rentrer dans l'étude de ce texte avec une question pour vous. Quelle est la chose la plus impressionnante que vous ayez jamais vue? Quelle est la chose la plus impressionnante que vous ayez jamais vue? Un paysage magnifique? L'une des sept merveilles du monde que vous avez pu contempler avec vos yeux? Un concert de musique qui était palpitant? Votre équipe de sport favorite qui a remporté une victoire écrasante? Quelle est la chose la plus impressionnante que vous ayez jamais vue, qui est marquée dans votre mémoire? Aujourd'hui, on est entouré de spectacles qui réclament notre attention. Et au milieu de tout ça, on doit se demander, mais quel est le spectacle le plus impressionnant? Qu'est-ce qu'il y a de plus impressionnant? Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux? Et c'est à ces questions-là que répond le passage qu'on a lu et qu'on va étudier ensemble dans 2 Corinthiens, au chapitre 3. Et donc, si vous avez les feuillets avec vous, vous pourrez suivre là où on va, le plan de là où on va aller, de la prédication. Et on va se poser deux questions ce matin. Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux? Et quel privilège découle de ce ministère glorieux? Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux? Et quel privilège découle de ce ministère glorieux? Et donc, dans les premiers versets, Paul répond à cette question. Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux? Dans les versets 7 à 11. Et dans ces versets, Paul parle de deux ministères ou de deux alliances. Et peut-être que lire le verset 6, on aurait pu commencer la lecture au verset 6, va nous aider à mieux comprendre ça. Donc lisons le verset 6. Paul dit « Dieu nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. » Donc Paul parle d'une nouvelle alliance dans ce verset qui est caractérisée par l'esprit. Et il parle d'une autre alliance qui est caractérisée par la lettre. Et on voit plus loin dans ce qu'on a lu que cette haute alliance, elle est associée à Moïse et aux Israélites. Et donc, il s'agit de l'ancienne alliance, caractérisée par la lettre, parce qu'il était question de la loi écrite sur des tables de pierre. Peut-être que tout ce langage est nouveau pour vous. Vous vous dites, mais une alliance, qu'est-ce que c'est? Une alliance, c'est simplement un engagement que Dieu a pris envers un groupe de personnes à un moment donné de l'histoire. Un engagement que Dieu a pris. Dieu fait alliance avec ces personnes. Et ici, il est question de la nouvelle alliance et de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est l'engagement que Dieu a pris envers le peuple d'Israël après l'avoir fait sortir d'Égypte au mont Sinaï. On voit ça dans le livre de l'Exode. Et la nouvelle alliance, c'est l'alliance que Jésus est venu instaurer, que Jésus est venu rendre possible. C'est l'alliance que l'engagement que Dieu prend envers tous ceux qui placent leur confiance en Jésus pour être sauvés. Et donc dans ce passage, Paul va parler de ces deux alliances pour les comparer. Il parle du ministère de la mort, c'est l'ancienne alliance, et du ministère de l'esprit, c'est la nouvelle alliance. Il parle du ministère de la condamnation, l'ancienne alliance, et du ministère de la justice, la nouvelle alliance. Il parle de ce qui est passager, au verset 11, l'ancienne alliance, et de ce qui demeure, ce qui est permanent, ce qui reste, la nouvelle alliance. On verra dans un instant ce que tout ça signifie, pourquoi Paul écrit ça, mais on peut déjà remarquer qu'il fait une comparaison entre ces deux alliances, ces deux ministères, ces deux époques. Et on peut aussi observer que dans ces versets, le mot « gloire » ou « glorieux » revient très souvent. En fait, il revient à chaque verset, entre le verset 7 à 11, à chaque fois on a ce mot « gloire » ou « glorieux ». Parce que si Paul fait cette comparaison entre ces deux alliances, entre ces deux époques, c'est pour montrer que l'une est plus glorieuse que l'autre. Il fait cette comparaison pour montrer qu'une alliance est meilleure que l'autre. Et il n'est pas juste en train de dire qu'une est un peu meilleure que l'autre, comme si c'était le produit bas de gamme et le produit haut de gamme. Il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ils sont différents, il y en a un qui est meilleur, mais au final, les deux font l'affaire et on ne verrait pas trop la différence. Non, dans ces versets, Paul montre qu'un ministère, une alliance, est largement meilleure que l'autre. Que l'une mène à la vie et l'autre mène à la mort. C'est un peu comme si on comparait la lumière d'une lampe de poche qu'on utiliserait pour retrouver notre chemin dans la forêt, il fait nuit, vous êtes là, je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes là, et vous avez besoin d'une lampe de poche, vous éclairez votre chemin. Si on compare cette lumière de la lampe de poche avec la lumière du soleil, ça n'a rien à voir. Une fois que le soleil est levé, on n'a plus besoin de la lampe de poche pour s'éclairer, pour retrouver notre chemin. Et donc si on compare la lumière de la lampe de poche avec la lumière du soleil, c'est pas juste qu'une lumière est meilleure que l'autre, un petit peu meilleure, mais c'est qu'ils n'ont rien à voir entre elles. L'une est largement meilleure que l'autre. Et c'est un peu une comparaison comme ça dont il est question dans ces versets. Entre l'ancienne alliance, l'époque de Moïse, et la nouvelle alliance, l'époque que Jésus a instaurée, l'époque à laquelle l'apôtre Paul vivait, et l'époque où nous sommes. Regardons les versets 9 et 10 qui nous aideront à comprendre cela. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, donc si le ministère de la condamnation, c'est-à-dire l'ancienne alliance, a été glorieux, le ministère de la justice, c'est-à-dire la nouvelle alliance, est bien plus glorieux encore. Verset 10, « Et même de ce point de vue, ce qui était glorieux, c'est-à-dire l'ancienne alliance, a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure, la gloire supérieure dans la nouvelle alliance. » En comparaison à la nouvelle alliance, l'ancienne alliance perd son éclat. Même si elle est glorieuse, elle perd toute sa gloire quand on la compare à la nouvelle alliance, qui la dépasse largement. C'est la lumière de la lampe de poche qu'on compare avec la lumière du soleil. Ça n'a rien à voir. Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi l'époque où nous sommes est bien plus glorieuse que l'époque de Moïse? Et on a la réponse en s'intéressant aux mots qui sont utilisés pour décrire ces deux époques. Comme on l'a dit, il est question de la lettre qui tue et de l'esprit qui fait vivre. Il est question du ministère de la mort et du ministère de l'esprit. Il est question du ministère de la condamnation et du ministère de la justice. Et c'est surprenant que Paul utilise des mots très forts pour décrire l'ancienne alliance. Ministère de la mort, de la condamnation, qui tue. On peut se dire, mais est-ce que l'ancienne alliance ne vient pas de Dieu après tout? Comment est-ce que ça se fait que Paul utilise ces mots très forts pour décrire cette alliance? On doit dire que Paul n'est pas en train de dénigrer l'ancienne alliance ici ou de dire qu'elle serait mauvaise en elle-même, c'est pas de ça dont il est question. Il dit lui-même que cette alliance était glorieuse. Si on regarde le verset 7, il dit « Le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. » Donc c'était quelque chose de glorieux. Il fait référence dans ce passage, dans ce verset et dans tout le passage qu'on a lu, à ce qu'on a lu juste avant dans Exode 34, pendant la présidence, en descendant de la montagne après avoir rencontrer Dieu, le visage de Moïse rayonnait de gloire. Et c'était si glorieux que les Israélites ne pouvaient pas fixer les yeux sur le visage de Moïse. Et Moïse a dû mettre un voile pour cacher son visage. Donc l'ancienne alliance, c'était quelque chose de glorieux qui venait de Dieu, qui était bon. Mais le problème, c'est que cette époque, cette alliance, n'a mené les êtres humains qu'à la mort, qu'à la condamnation. Pas parce que cette alliance était insuffisante ou imparfaite, mais parce que les êtres humains sont imparfaits. Pécheurs, rebelles envers Dieu, ne voulant pas se soumettre à une autorité supérieure qui vient de Dieu et incapables de respecter parfaitement les exigences morales de Dieu. La logique de cette alliance, de l'ancienne alliance, la manière dont elle était construite, c'est qu'il fallait obéir parfaitement pour pouvoir être accepté de Dieu. C'est ce que Paul dit dans Romains 10, il écrit « En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elle. » Et c'est logique si on y pense. Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu est totalement pur. Et donc la seule manière de s'approcher de lui, c'est d'avoir nous-mêmes cette même perfection, cette même pureté. Parce que ce qui est saint ne peut pas rentrer en contact avec ce qui est pécheur, c'est juste impossible. Il y a donc des conditions à remplir pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et c'est pour ça que Paul parle du ministère de la mort et de la condamnation. Ce n'est pas que cette alliance est mauvaise, mais c'est que les êtres humains sont incapables d'en satisfaire les conditions. Donc face à cette alliance, face à ce ministère, la seule issue, c'est la mort, la condamnation. Et c'est pour ça qu'il fallait quelque chose de plus. C'est pour ça qu'il fallait une autre alliance. C'est pour ça qu'il fallait que quelqu'un remplisse ces conditions à notre place. Les conditions pour que les êtres humains pécheurs que nous sommes entrent en bonne relation avec le Dieu de l'univers, qui est parfait, qui est juste et qui est saint. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur terre, il y a 2000 ans, pour venir instaurer la nouvelle alliance. Il a obéi parfaitement à la loi de Dieu. Il a réussi là où nous avons tous échoué. Et donc, il a mérité la bénédiction de Dieu. Il a pris sur lui aussi, sur la croix, la malédiction que notre rébellion avait entraînée. Il est mort en prenant sur lui le poids de notre péché, la juste colère de Dieu. Son sang a coulé et son sang précieux a donné lieu à une nouvelle alliance, bien meilleure, bien plus glorieuse, bien plus excellente. Un ministère de la justice, comme Paul en parle dans ses versets. Une alliance qui mène à être réellement juste aux yeux de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si on place notre confiance en Jésus, on a l'assurance que nos péchés sont pardonnés et qu'on est revêtu de la justice de Christ, de l'obéissance parfaite de Jésus. L'époque où nous sommes, c'est un ministère de l'Esprit. Et cet Esprit donne la vie. C'est un ministère de la justice qui rend réellement juste aux yeux de Dieu. Et donc, ça nous aide à comprendre combien l'époque où nous sommes est-ce qu'il y a de plus glorieux ? Parce que, selon ces versets, même le ministère de la mort a été glorieux. On l'a vu avec Moïse qui était revêtu de gloire, c'était impressionnant. Mais donc si même le ministère de la mort a été glorieux, alors combien plus le ministère de l'Esprit qui donne la vie sera glorieux ? Si même le ministère de la condamnation a été glorieux, alors combien plus le ministère de la justice sera glorieux ? Ces versets répondent à cette question, qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux, en disant ce qu'il y a de plus glorieux. C'est ce que Jésus a fait par sa vie, sa mort et sa résurrection, et la nouvelle alliance qu'il est venu instaurer. Et après avoir fait cette comparaison, Paul va maintenant en tirer les conséquences. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça implique que ce ministère soit bien plus glorieux ? Et il va montrer dans la suite des versets les privilèges qui en découlent. Et donc ça nous amène à notre deuxième question ce matin. Quel privilège découle de ce ministère glorieux dans les versets 12 à 18. On va voir ensemble quatre privilèges qui sont mis en avant dans ces versets, qui découlent de ce ministère glorieux bien plus impressionnant. Le premier d'entre eux, c'est que nous sommes privilégiés de voir avec clarté. Nous sommes privilégiés de voir avec clarté. On peut lire le verset 13 qui aide à saisir ça. Il écrit « Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. » Donc il est dit que nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, on ne fait pas comme Moïse, on n'a pas de voile sur le visage. Et à quoi servait ce voile ? Comme on peut le voir dans ce verset et au verset 7, c'était un voile qui cachait la gloire de Dieu sur le visage de Moïse, qui empêchait les Israélites de voir la gloire de cette alliance. Et donc, dans un sens, c'est comme si les Israélites eux-mêmes avaient un voile sur leur visage qui les empêchait de voir la réalité de ce qui était glorieux. Mais nous, chrétiens, aujourd'hui, on est privilégiés de pouvoir contempler la gloire de Dieu en la personne de Christ, sans voile, sans rien qui nous cache cette gloire. Clairement, on peut voir ça avec le verset 18, où il est écrit « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » On verra la deuxième partie du verset plus tard, mais on peut déjà voir qu'il est dit qu'on n'a plus de voile sur le visage, plus rien qui nous cache la gloire. Et on contemple, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. On peut se dire, mais qu'est-ce que ça signifie, ça ? Et de lire un peu plus loin, un verset un peu plus loin dans 2 Corinthiens, ça nous aide à comprendre ce dont il est question ici, dans le chapitre 4 au verset 6, qu'on verra la semaine prochaine. Paul écrit « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Donc ce verset nous montre que la connaissance de la gloire de Dieu se trouve en la personne de Christ. C'est Jésus qui est l'expression parfaite de la gloire de Dieu. Donc si on veut voir la gloire de Dieu, il faut regarder à Jésus. Si on veut voir la gloire de Dieu, il faut regarder à Jésus. Qui il est et ce qu'il est venu faire sur cette terre. La grandeur de sa personne et la grandeur de son œuvre à la croix. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, on peut contempler ça pleinement, sans voile, de manière claire, dans l'Évangile, le message que la Bible présente à propos de Jésus. Et on est privilégié de pouvoir le faire, parce qu'on contemple celui vers qui toutes les Écritures pointent. Paul explique au verset 14 et 15 qu'aujourd'hui encore, le même voile reste pour ceux qui s'attachent encore à l'Ancien Testament, uniquement à l'Ancien Testament, à l'Ancienne Alliance. Pourquoi ? Parce que c'est en Christ que le voile disparaît, quand on se convertit et que l'Esprit œuvre en nous pour nous donner la vie. On ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans Christ parce que c'est vers Christ que pointe justement l'Ancien Testament. C'est lui qui est la clé qui permet de comprendre tous les mystères dans un sens. En dehors de Jésus, l'Ancien Testament n'a pas de gloire. Il n'a aucun sens. Donc sans Christ, c'est comme si on avait un voile qui nous empêchait de voir la gloire de Dieu, même dans un écrit qui vient de la part de Dieu, même en lisant un écrit qui vient de Dieu. Et ça nous aide à réaliser nos privilèges. Comparons Siméon, un juif du XXIe siècle, avec vous, chrétiens bruxellois du XXIe siècle. L'un sert dans une synagogue, l'autre sert dans une église évangélique. Et dans un sens, tous les deux, vous faites des activités très semblables. Vous lisez les Écritures, vous priez, vous chantez, vous aidez les autres membres de la communauté, vous servez le café ou vous faites quelque chose d'autre, un autre service. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes bien plus privilégié ? Parce que Siméon lit sans comprendre la vraie portée des Écritures. Mais vous, vous lisez et vous contemplez Christ. la gloire de Jésus, vers qui toute la Bible pointe. Quel privilège immense! Parfois, on pense peut-être que les Israélites, ils étaient plus privilégiés que nous, parce qu'ils ont pu voir des choses impressionnantes. Ils ont pu vivre les 10 plaies d'Égypte, des miracles qui frappaient les yeux. Ils ont pu voir la mer Rouge se séparer en deux. Ils ont pu être conduits par la bonne main de Dieu dans le désert. Ils ont pu voir la manne tomber jour après jour. On se dit, mais waouh, ça c'était impressionnant, ils étaient plus privilégiés que nous. Mais on a bien mieux. On contemple dans l'Évangile la gloire de Jésus vers qui toutes les Écritures dirigent. On contemple le plan de Dieu qui arrive à son apogée en lui, les promesses de Dieu qui trouvent son accomplissement en lui, la révélation parfaite de Dieu en lui. Nous sommes privilégiés de voir avec clarté. Et le deuxième privilège que ces versets mettent en avant, c'est que nous avons ce qui est le plus impressionnant. Nous avons ce qui est le plus impressionnant. De nos jours, il y a des spectacles quotidiens autour de nous, en particulier sur notre smartphone, sur les réseaux sociaux, sur les publicités, les vidéos virales, tout ce qu'il y a autour de nous. C'est des spectacles qui tournent autour de nous et qui demandent notre temps, notre attention, notre énergie, l'affection de notre cœur. Et naturellement, on laisse nos yeux se porter sur ce qui est mis devant nous. Et donc, on se met à être impressionné par ces choses. On se met à être captivé par ces choses. Et quand on compare ça à ce que la foi chrétienne offre, on a le danger de se dire « bof ». C'est pas si impressionnant que ça. Le pardon des péchés, mais je peux pas liker ça sur Instagram. Une relation privilégiée avec Dieu, mais c'est pas ça qui va faire des vues sur Internet. Ça a pas l'air si impressionnant. Et il y a plein de choses autour de nous qui entrent en compétition avec notre émerveillement face à l'Évangile et qui nous font croire que l'Évangile n'est pas si glorieux que ça, après tout. Et donc, on a besoin de réaliser qu'en tant que chrétien, nous avons ce qu'il y a de plus impressionnant. Tous ces autres spectacles que le monde offre sont passagers. Ce sont des boîtes creuses, de la fumée au-dessus d'un feu. Une story Instagram dure 24 heures. Mais la gloire de Christ est éternelle. Une publicité, elle est là pour quelques semaines avant d'être remplacée par un produit soi-disant meilleur. Mais la gloire de Christ ne change jamais. Et c'est toujours ce qu'il y a de meilleur, de plus impressionnant, de plus glorieux. Je lisais cette semaine des citations d'un livre de Tony Renke. En anglais, le titre, c'est « Competing Spectacles ». Je ne sais pas trop comment traduire ça en français, « La lutte des spectacles », ou voilà, ça fait un peu Star Wars. Mais on verra comment les éditeurs en français le traduiront. Mais il parle de tout ça, de ces spectacles quotidiens qui nous entourent. Et il a dit plusieurs éléments que je trouve assez marquants et que j'aimerais citer. Donc, il dit ceci. « La grande vocation du chrétien est de garder le cœur, ses affections et ses désirs. Le pire commerce de l'univers, c'est de jouer dans les piscines peu profondes des spectacles du monde, au lieu de plonger en profondeur dans le trésor qui a une valeur éternelle. La bataille du chrétien en cette ère médiatique ne peut être gagnée que par le pouvoir d'un spectacle supérieur qui met de côté les autres. » Et ce spectacle supérieur dont cet auteur parle, c'est Christ. C'est Christ. Et donc ça signifie pour nous que, au lieu de courir immédiatement après la dernière vidéo YouTube sans cesse, on a besoin d'être impressionné, émerveillé par ce qu'il y a de plus impressionnant, la gloire, la grandeur de la gloire de Jésus, la gloire de qui Jésus est, de ce qu'il a fait sur cette terre. Et comment faire ça? Dans un sens, il n'y a rien d'exceptionnel ou il n'y a rien de mystique. Venir à l'église, passer du temps avec d'autres chrétiens pour s'encourager dans le Seigneur, lire des bons livres qui présentent la grandeur de Christ et de son œuvre à la croix, lire la Bible en réalisant que tout pointe vers Jésus, écouter des chants ou chanter des chants qui sont centrés sur Christ. Ce sont des choses simples du quotidien, mais qui nous permettent d'être mis face à ce spectacle qui est plus grand, face à ce spectacle qui dépasse tous les autres. Et quelle sera la conséquence de ça? Je cite à nouveau Tony Renke, qui écrit ceci. « Lorsque nous tournons notre attention vers le Christ, notre spectacle ultime, tous les pixels vacillants des choses sans valeur et des idoles bien-aimées de notre culture s'estompent étrangement. En regardant au-delà des sentiments qui consomment ce monde centré sur ce que l'on voit, nous mettons notre espoir dans le spectacle que nous ne voyons aujourd'hui qu'à travers des coups d'œil et des lueurs, mais qu'un jour nous verrons dans la splendeur de sa forme, entièrement transfigurée, en pleine lumière, devant nos yeux. » En contemplant ce spectacle plus grand, tous les autres pâlissent. Et donc ça veut dire qu'on doit lutter aujourd'hui pour ne pas nous attacher aux apparences. Comme on dit, les apparences sont trompeuses. Et c'était le cas pour ces Corinthiens à qui Paul écrit. Ils regardaient le ministère de Paul et ils se disaient « mais ça n'a pas l'air très impressionnant. » Et en comparaison, ils regardaient le ministère des super apôtres, comme Paul les appelle, d'autres gens qui proclamaient un faux message, et ça avait l'air très impressionnant, très visible, très marquant. Ils se disaient « mais waouh, ça c'est impressionnant, c'est ça que je veux suivre. » Et Paul leur rappelle, non, ne vous fiez pas aux apparences, ne vous attachez pas à ce qu'on voit, les apparences sont trompeuses. Parce que Paul montre ici que le message qu'il proclame, la vérité à laquelle il s'attache, le ministère qu'il accomplit, c'est ça qu'il y a de plus glorieux. Donc il ne faut pas regarder aux apparences uniquement, mais il faut regarder dans les coulisses en quelque sorte, à ce qu'il y a derrière. Je suis tombé cette semaine sur une autre citation de Alistair Begg qui écrit ceci. La question n'est pas de savoir à quel point l'atmosphère dans laquelle la prédication a eu lieu était vibrante ou électrique, mais à quel point l'évangile était présenté clairement. Et effectivement, si on parle de prédication, où est la gloire si on ne parle pas de la croix? Si on ne parle pas de Christ crucifié pour les pécheurs que nous sommes? Un prédicateur timide qui cherche ses mots, qui a des tics de langage, c'est glorieux si Christ est présenté dans sa grandeur, si l'évangile est mis en avant. Et en comparaison, un prédicateur éloquent, une atmosphère vibrante, une foule de personnes, des amens qui résonnent, ça n'a rien de glorieux si Christ n'est pas présenté dans sa grandeur, si l'évangile n'est pas mis en avant. Ce qui fait la puissance, ce n'est pas le messager, mais c'est le message qui est proclamé. Et en regardant ce message, nous pouvons réaliser que nous avons aujourd'hui ce qu'il y a de plus impressionnant dans ce monde. Le troisième privilège que Paul met en avant, qu'on peut voir dans ces versets, c'est que nous avons la vraie liberté. On peut lire le verset 17 ensemble, qui parle de cette liberté. Paul écrit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alors c'est peut-être un verset qui peut nous paraître mystérieux, on peut se dire « Mais de quoi ça parle ?» Mais ce que ce verset met en avant, c'est que le Seigneur qui nous enlève le voile dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit. Et quand cet esprit est à l'œuvre en nous pour nous enlever ce voile qui nous cache la gloire de Dieu par la nouvelle naissance, alors nous connaissons la liberté. Peut-être que quand vous pensez à la foi chrétienne, le dernier mot qui vous vient en tête, c'est l'idée de liberté. Vous dites, mais être chrétien, c'est loin d'être libre. Si je deviens chrétien, je vais devoir aller à l'église tous les dimanches. Je vais devoir lire ma Bible, je vais devoir prier, je vais devoir supporter des gens que je n'ai pas envie de supporter. C'est loin d'être la notion de liberté qui nous vient en tête, peut-être quand on pense à la foi chrétienne. Et pourtant, aujourd'hui, on dit qu'on est libre, mais on vit en étant contrôlé par le regard des autres, parce que les gens vont penser de nous. On dit qu'on est libre, mais on vit en essayant de s'améliorer soi-même. On dit qu'on est libre, mais on vit en essayant de faire taire la condamnation intérieure, la crainte du jugement que l'on ressent. Et face à ça, la foi chrétienne offre la vraie liberté. La vraie liberté est l'Esprit de Dieu qui œuvre en nous pour nous permettre de nous repentir et de placer notre confiance en Jésus. Lui, il offre la vraie liberté. On est libre de la condamnation qu'on mérite parce que Jésus l'a prise à notre place. On est libre de la crainte de la mort et du jugement parce que Jésus nous a sauvés. On est libre de vivre une vie nouvelle en bonne relation avec Dieu, marquée par la justice. En plaçant notre confiance en Jésus, le voile est ôté. Et ultimement, on est libre de voir ce qu'il y a de plus glorieux dans ce monde. On est libre de voir ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. La gloire de Jésus. La gloire de qui il est et de ce qu'il a fait sur cette terre. Et si ces choses ne vous paraissent pas glorieuses dans un sens, c'est normal, parce que c'est en Christ que le voile est ôté. Et donc il faut vous détourner de vos fautes, de ce qui vous condamne aux yeux de Dieu. Et il faut placer votre confiance en Jésus, en sa vie parfaite, en sa mort sur la croix, qui peut vous sauver, pour que le voile soit ôté, pour que vous voyez la gloire qui se cache derrière la foi chrétienne, et que ainsi vous puissiez vivre la vraie liberté. Le dernier privilège qu'on peut voir à partir de ces versets, c'est que nous sommes véritablement changés. Tout le monde veut le changement aujourd'hui, n'est-ce pas? Toutes les publicités qu'on voit, elles sont là pour nous promettre le changement. Mangez ce yaourt et vous allez être plus mince. Conduisez cette voiture et votre famille sera heureuse. Mettez ce parfum et tout le monde va vous apprécier. Des pubs qui promettent le changement. Mais souvent, le changement qui est promis, ce n'est pas celui qui s'accomplit dans nos vies. Il y a un décalage, il y a une différence. Et ce passage, ces versets nous parlent du véritable changement. Lisons à nouveau le verset 18 de notre texte. Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. En tant que chrétien, on contemple la gloire de Dieu en la personne de Christ, on voit la gloire de l'Évangile, et alors qu'on contemple ça, on est transformé par l'Esprit de Dieu. On est rendu conforme à l'image qu'on contemple pour être rendu conforme à Christ. Et c'est comme Moïse qui était dans la présence de Dieu, qui contemplait la gloire de Dieu. Il en était transformé. Son visage rayonnait. Nous aussi, quand on prend le temps de méditer sur l'Évangile, quand on comprend combien Jésus est glorieux, on est transformé, en quelque sorte notre visage rayonne. Alors ici, il n'est pas question de transformation physique, comme si le secret pour rester jeune, c'était de contempler l'Évangile. Ce n'est pas de ça dont il est question. Mais il est question ici de transformation intérieure, de la sanctification, comme on appelle. C'est-à-dire du processus par lequel on devient de plus en plus comme Dieu veut qu'on soit. Et par lequel on se débarrasse du péché dans notre vie, de ce qui fait horreur à Dieu, pour ressembler davantage à Jésus. Et comment est-ce que ça se passe? En contemplant la gloire de Jésus et par l'Esprit de Dieu. Il ne s'agit pas de voir Christ physiquement, mais il s'agit de comprendre qui il est, sa personne et la grandeur de ce qu'il a fait sur terre, le récit de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Il s'agit de mots, il s'agit d'un message, il s'agit d'une histoire, mais qui sont réels et qui sont glorieux. Et donc ça nous apprend beaucoup sur la manière dont le changement se passe dans notre vie chrétienne. On a probablement tous des domaines où on voit qu'on a du progrès à faire, et si jamais c'est peut-être qu'on n'est pas assez honnête avec nous-mêmes, des domaines où on voit qu'on lutte, qu'on chute et on voudrait progresser. On se dit, mais comment changer? Comment faire? Ces versets nous montrent qu'on devient ce que l'on contemple. On devient ce que l'on contemple. Il ne s'agit pas de méthode, il ne s'agit pas d'un plan en 10 étapes, mais il s'agit d'être captivé par la grandeur de Christ. Si on passe notre temps à contempler la gloire de Jésus, alors on sera transformé pour ressembler à la même image. Mais si ce avec quoi on remplit nos pensées, ce sont des choses impures, alors c'est ces pensées-là qui vont nous transformer, qui vont nous changer. On devient ce que l'on contemple. Et c'est pour ça que la clé pour lutter contre le péché, c'est pas de se concentrer sur le péché lui-même, mais c'est de se concentrer sur ce qui est bien meilleur que le péché, c'est-à-dire Christ. Si c'est la gloire de Christ qui est devant nos yeux, que nos oreilles écoutent et qui remplit nos affections, alors en quelque sorte, il n'y aura plus de place pour le péché. Et ce verset 18 nous montre aussi, et c'est avec ça qu'on va gentiment terminer, ce verset nous montre ce à quoi ressemble une œuvre authentique de l'Esprit dans une vie chrétienne. On entend beaucoup parler aujourd'hui de puissance de l'Esprit. Et facilement, on peut rattacher ça à des bruits, à des miracles visibles, à des choses spectaculaires, à du surnaturel qui frappe les yeux. Mais on doit se demander à quoi ressemble la puissance authentique de l'Esprit, selon ces versets. À quoi ressemble une œuvre authentique de l'Esprit dans notre vie? Qu'est-ce que l'Esprit va faire en nous? On a la réponse avec ce verset 18. C'est une transformation quotidienne, intérieure, humble, qui pour grandir dans la sainteté. C'est ça que l'Esprit fait dans la vie du chrétien. Une progression dans la sainteté alors qu'on contemple la gloire de Christ. Alors quelle est la chose la plus impressionnante que vous ayez jamais vue? Quelle est la chose qui vous reste gravée dans la mémoire? Ces versets nous ont parlé, nous parlent de ce qu'il y a de plus impressionnant, de ce qu'il y a de plus glorieux. Ces versets nous parlent du plus grand spectacle. Et j'aimerais juste terminer en citant à nouveau Tony Renke dans ce livre, et je prierai pour terminer. Donc je lis à nouveau de Tony Renke de ce livre sur les spectacles. Dans ce monde qui aime les spectacles, avec tous ses créateurs et ses industries du spectacle, est apparu le plus grand spectacle jamais conçu dans l'Esprit de Dieu et réalisé dans l'histoire du monde, la croix du Christ. C'est la charnière de l'histoire, le point de contact entre l'époque avant Jésus et l'époque après Jésus, où tous les temps se heurtent, où tous les spectacles humains rencontrent un spectacle inégalé, cosmique et divin. Le Christ ressuscité au calvaire a marqué l'apogée du spectacle que tous les autres spectacles de l'histoire du monde n'atteindront jamais. Le spectacle prééminent de la vie divine et de l'amour divin, offert gratuitement au monde ébahi. Le fardeau du Christ qui porte la colère, invisible à l'œil nu, est le véritable spectacle dans le spectacle. Un moment culminant de l'histoire trinitaire où la coupe pleine de la colère de Dieu a été remise au Fils précieux pour qu'il la boive jusqu'à la lie. Voilà le plus grand spectacle. Voilà ce qu'il y a de plus impressionnant. Christ crucifié et ressuscité. Prions ensemble.